Pourquoi l'Ecclésiaste? En fait, pendant cette période où on a vu tout d'un coup tout s'arrêter, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le bilan de leur vie, qui ont un peu analysé leur train-train, puisque tout d'un coup, tout était bouleversé. Ce qui semblait urgent, ce qui semblait important, essentiel, ben ça s'est arrêté. Et puis les gens se sont retrouvés un peu surpris décontenancés pour certains. Il y en a, j'en connais quelques-uns, qui ont apprécié le fait d'avoir plus de temps, d'avoir moins de stress, d'avoir moins d'activité. Et puis, il y en a beaucoup qui se sont posé la question, mais finalement, après quoi je cours? Pourquoi est-ce que habituellement je suis sous stress ou j'ai un rythme de vie qui me va pas? Et puis, j'en ai entendu plusieurs qui se sont promis de faire des choix, de tirer les leçons pour leur vie, de changer leur style de vie et leur rythme de vie. Donc, le fait d'avoir été obligé de s'arrêter, ça a fait prendre du recul à beaucoup de monde. Et l'Ecclésiaste, ben, c'est le spécialiste pour prendre du recul. C'est ce qu'il a voulu faire dans sa vie, hein. Il a voulu analyser sa vie, bien sûr, mais l'humanité, tout pour faire des choix éclairés, avoir les yeux ouverts. Alors, je me suis dit que cette recherche de sagesse, eh ben, elle ne pouvait que nous faire du bien actuellement dans ce qu'on est en train de vivre. Alors, j'aimerais vous citer tout d'abord un texte de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 7, 14, un petit peu comme un hors-d'œuvre, qui dit au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Ah, là, il y a la suite. Car Dieu a fait l'un et l'autre. Si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Au jour du malheur, réfléchis. Littéralement, ça veut dire « regarde ». Réfléchir, hein, « regarde ». Et puis, je pense que ça peut tout à fait nous correspondre aujourd'hui. Hein. On vit une période de malheur. Et on a à regarder et à réfléchir. Tout au long du livre de l'Ecclésiaste, il y a ce verbe « voir ». Qui revient. Il est omniprésent. Et l'Ecclésiaste, il décrit par ce verbe ses observations sur la vie, son analyse. Il montre son désir d'avoir justement ses yeux grands ouverts et de ne pas se laisser tromper par des illusions ou par des habitudes. Il veut être objectif, il veut être sage. Et pour ça, eh bien, il choisit de voir, de regarder. Et il répète, j'ai vu que, je ne sais pas si vous avez remarqué hein, dans l'Ecclésiaste, j'ai vu que, c'est vraiment un refrain qui vient sans arrêt. 50 fois dans le livre, donc c'est énorme. Et il ne veut pas échapper à ce qu'il voit. Pour lui, le sage, c'est quelqu'un qui voit vraiment clair. Et puis, ce n'est pas seulement quelqu'un qui aperçoit, mais c'est quelqu'un qui prend la peine de regarder pour conclure. C'est constater. Et ce livre que j'aime beaucoup, c'est celui de l'observation et de la constatation sincère. Alors, parmi les choses qu'il voit, il y a le côté éphémère de la vie. il va dire justement vanité des vanités, hein, le côté éphémère. La vie, elle a une fin, elle est volatile. Il y a plein de choses qui sont volatiles comme ça. Et il y a le côté éphémère aussi de la poursuite de l'argent, qui décrit dans son livre, et puis à laquelle on a été quand même confronté avec toute l'économie qui s'est fragilisée. Alors, je vous invite à lire Ecclésias 4, versets 7 à 8. S'il peut être là, ça serait sympa. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Voilà un homme seul sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et je prive mon âme de bonheur? C'est encore là une vanité et un souci malsain. On voit bien dans ce texte, hein, le côté futile de cette recherche de l'argent qui n'a pas de fin. C'est là encore une vanité, un souci malsain. Et puis un autre dans Ecclésias 5, versets 12 à 15. Ecclésias 5, versets 12 à 15. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si ses richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère, il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent ? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité. Il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Vous allez me dire, c'est pas très positif, hein, tout ça. C'est vrai, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très positif à réaliser quand on fait fausse route. Et puis, oui, quand on passe à côté de sa vie. Alors la question de l'Ecclésia, je trouve qu'elle est bonne. Pour qui donc est-ce que je travaille et je prive mon âme de bonheur? Alors j'avais pas l'intention de faire l'apologie du farniente. c'est pas ça l'idée. Le problème, je crois pas que c'est le travail en soi, mais c'est vraiment le travail qui n'a pas de fin. C'est le fait de priver son âme de bonheur, puis de passer à côté, quoi, de rater sa vie, parce qu'on est dans un engrenage. C'est plutôt ça le problème. Alors, l'Ecclésiaste, il a constaté ces choses-là. Peut-être que vous, dans votre vie, pendant cette période, vous avez vu d'autres choses dans votre vie que vous aviez envie de changer. Vous avez eu l'occasion de faire une prise de conscience. Alors, les choses que j'ai citées jusqu'à maintenant, c'est des choses négatives que l'Ecclésiaste a vues. Il constate la misère, la fragilité humaine. Et puis, c'est vrai que nos médias, ils nous ont un peu gavés ces derniers mois de tout ça. On a vu ça, on l'a entendu. La fragilité de notre monde, on l'a vu, entendu. Le côté éphémère aussi de tout ce qui se casse la figure. Mais l'Ecclésiaste ne s'arrête pas là. Et je trouve très intéressant qu'il réutilise le même verbe, voir, pour dire aussi ce qui fait le vrai bonheur humain. Il va l'utiliser un peu comme un contre-emploi et il va dire tout ce qu'il voit de beau et de bon. Et à ce moment-là, des fois dans le texte, c'est traduit « se réjouir » ou « s'émerveiller ». Mais c'est toujours « voir hein ». C'est « voir ce qui est beau ». C'est « voir ce qui est bon ». S'émerveiller et se réjouir. Alors, j'aurais voulu lire la suite du texte qu'on a lu tout à l'heure dans, au chapitre 5, au verset 17 et 18. Parce que l'Ecclésiaste ne s'arrête pas sur le négatif. Voici ce que j'ai vu. Il y en a qui ont vu la même chose. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger et d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Alors voilà les choses qui sont citées comme belles et bonnes. Parfois, on pense traditionnellement, en tout cas, que l'Ecclésiaste est Salomon, le roi Salomon. Donc il a vu des choses douloureuses, futiles, et puis il a vu des choses belles et bonnes. Manger, boire, se réjouir au milieu de son travail. Et je trouve intéressant qu'on retrouve le travail. Je vous disais, hein, c'est pas le farniente, mais au milieu de son travail. Ça veut dire que c'est pas le problème du travail en soi. Hein. Et je me suis dit, finalement, il y a deux façons de voir. Au milieu de son travail, ça veut dire qu'on peut avoir du plaisir aussi à faire son travail. On peut aimer ce qu'on fait. Et puis, s'en réjouir. Et puis, il y a aussi une autre façon de voir, c'est dire, bah, au milieu de son travail, au milieu, c'est-à-dire quand il y a une pause, quand enfin il peut souffler, il peut se réjouir de souffler. Il y a des versions qui disent au milieu de sa peine. Moi, j'aime les deux, finalement, hein. Se réjouir de son travail et aussi dans les pauses. Et j'ai pas voulu choisir. Je vous laisse vous positionner. Mais je trouve que c'est, ouais, c'est intéressant. Et puis, la traduction de la Colombe, elle est aussi intéressante parce qu'elle dit, au lieu de se réjouir, elle parle de voir le bonheur, de nouveau, hein, ce verbe voir. Voir le bonheur, c'est se réjouir au milieu de toute la peine. Alphonse Maillot, qui a écrit un commentaire sur ce livre, il dit ceci. Il dit, le bonheur humain, c'est de n'être qu'un être humain. Et d'accepter de n'être que cela. Après, et après cela seulement, on peut se mettre joyeusement et paisiblement au travail. Je trouve intéressant cette notion d'accepter notre humanité, notre place de simple être humain face à Dieu aussi. Et ça me semble essentiel d'accepter qu'on n'est qu'un homme, donc qu'on est ou un être humain, une femme, et que donc on n'est pas Dieu, et aussi qu'on ne peut pas se passer de Dieu. Je crois que ça fait partie de notre humanité d'accepter qu'on est un homme. Et du coup, on peut se réjouir aussi de toutes ces choses très humaines. Hein. Manger, boire, se reposer. Il y a plein d'autres choses qui sont très simples, mais qui sont belles et bonnes et qui nous font du bien. Et puis cette liste, elle n'est pas exhaustive des choses qui sont bonnes et belles. On pourrait aussi parler d'Ecclésiaste 9, versets 9 et 10. Il y a aussi un texte très connu qui dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la vie, pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant toute la durée de ton existence fumeuse, oui, c'est Maillot qui traduit comme ça. Car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. L'existence fumeuse, c'est-à-dire volatile. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'ai aimé, là, on parle du couple, mais j'ai aimé le fait qu'il souligne l'aspect relationnel qui est essentiel. Et qui est aussi une belle chose dans la vie. On a besoin de relations, et ça, on l'a bien senti. Hein. J'ai vu passer pendant le confinement une vidéo, peut-être que vous l'avez vue aussi, et je n'ai pas résisté à l'envie de vous la faire regardez, j'espère que c'est ok. Oui, c'est une petite fille qui s'émerveille de plein de choses. Vous verrez, on voit la capacité des enfants de s'émerveiller et d'être très philosophe finalement. Donc je vous laisse regarder.
Tu sais que la vie, elle est belle. Mais si on voit plus la vie quand on meurt, du coup c'est un peu triste, il faut en profiter de la vie. La vie c'est joli, c'est beau. On peut voyager, chanter, rigoler. Sur la terre, tout est joli. Il y a plein de choses qu'on dit jolies. Les princes, les reines, les diamants, les chansons douces. Les bébés, tout ça, c'est chouette. Du coup, il faut en profiter s'ils sont grands. Mais c'est chouette d'avoir des copains sur la terre. Après, quand on meurt, on ne les voit plus. C'est triste.
Tu veux que j'aille te chercher un cookie?
Oui.
J'y vais, mon cœur.
Oui, je l'ai vu plein de fois, mais je ne m'en lasse pas. J'avais envie de vous inviter, pour terminer, à faire votre propre bilan. L'Ecclésiaste a fait ses constatations, ses propres bilans. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour chacun de nous, finalement, de se faire un petit bilan négatif, les choses que je veux un peu laisser tomber ou voilà, et puis positif, ce qui est important, ce que j'aimerais accentuer, laisser plus de place dans ma vie. Cette petite fille, elle s'émerveille d'un tas de choses. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai vu qui était important et auquel j'aimerais vraiment laisser de la place? Donc, je ne vous ai pas laissé de petites feuilles sur les tables comme ça. Je me suis dit, soit on fait mentalement notre petit bilan, soit vous avez tous ou presque tous un smartphone ou on peut, dans les notes, réfléchir et puis écrire. Des fois, ça fixe les choses aussi. Voilà. L'idée étant qu'il y a un texte dans la Bible qui dit qu'il faut... Il ne faut pas se regarder dans le miroir puis oublier ce qu'on a vu. Donc, ouais, qu'on puisse devenir plus sage de tout ce qu'on a vu et compris et qu'on puisse en faire quelque chose pour la suite. Donc, je vous invite à un moment où chacun est face à soi-même et puis, si vous avez un smartphone, eh ben, vous pouvez écrire votre propre bilan.